Donc, combien de prophètes arabes ? Un prophète arabe, qui est d'accord ? Qui est d'accord, qui n'est pas d'accord ?
Je te laisse gérer le...
Tu dispatches. Quatre prophètes, Ahsan, quatre prophètes. Menhum, qui sont-ils ? Donc effectivement, quatre prophètes arabes, on écoute, il va donner la réponse.
Mohammed,
sallallahu alayhi wa sallam.
Shu'aib.
Uhud.
Ismaïl, Salih.
Effectivement, avec un peu d'aide, on y arrive. Donc, quatre prophètes arabes. Le premier, Shu'aib. Non, le premier dans l'ordre chronologique. Hud, Salih, Shu'aib et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quatre prophètes arabes. Donc, retenez bien. On va dire plusieurs milliers d'envoyés. Parmi ces envoyés, 25 sont cités dans le Coran. Parmi les 25 qui sont cités dans le Coran, 5 sortent du lot, les Oulul Azm. Parmi ces 5, enfin pas parmi ces 5. Ensuite, 4 prophètes arabes. Il y avait Hud, Salih, Shu'aib et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ensuite, on va regrouper les questions 4 et les questions 5. La question 4 et la question 5. Donc qui fut à l'origine de la reconstruction de la Kaaba à partir de ses fondations, et quel est l'ancêtre commun des Arabes de la péninsule arabique? Donc première question, celui qui a reconstruit la Kaaba, on pense d'ailleurs que la Kaaba a été détruite après le déluge de Nuh, donc qui l'a reconstruite, et quel est l'ancêtre commun des Arabes?
D'abord c'est Ibrahim et Ismaïl qui sont à l'origine de la reconstruction de la
Kaaba. Naam.
Et ensuite, l'ancêtre commun des Arabes, c'est
Ismaïl. Effectivement. Donc le premier, celui qui a eu l'ordre de reconstruire la Kaaba, c'est Ibrahim. Et il a été aidé par son fils Ismaïl. Donc là, on va dire quelques mots, parce que là, on se rapproche de là, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va dire quelques mots du prophète Ibrahim alayhi salam. Donc il faut savoir que le prophète Ibrahim... En fait, Ibrahim, il a cette particularité d'être aimé de toutes les communautés religieuses. Le prophète Ibrahim, il a cette particularité, il est aimé de toutes les communautés religieuses. Si bien que la communauté juive et la communauté chrétienne se le disputaient. Les chrétiens, ils disaient « Ibrahim, il est à nous » et les juifs, ils disaient « Ibrahim, il est à nous ». Sachant que d'après les historiens, on pense qu'Ibrahim, il est originaire de l'Irak du côté de l'Euphrate, selon certains chroniqueurs. Tayyib. Donc, le Coran est venu trancher dans ce débat-là, entre ces deux communautés, qui disaient, chacune d'entre elles, revendiquer le prophète Ibrahim. Pour savoir qui était Ibrahim et à qui il appartenait, il faut aller dans sourate Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala, il interpelle ouvertement les gens du livre. Qu'est-ce qu'il dit ? Ya ahl al-kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, wa ma unzilat at-tawrat wal-injil illa min ba'dih, afala ta'qilun ? Ha antum ha'ula'i hajajtum fi ma lakum bihi 'ilm, falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi 'ilm, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Et la réponse, elle vient là. Ma kana Ibrahim yahudiyan wa la nasraniyan. Et après, il y a ce qu'on appelle le ta'yid du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Inna awla an-nas bi Ibrahim lalladhina taba'uhu wa hadha an-nabi, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin. Donc je vais vous citer le verset, ce passage dans son intégralité, et vous allez comprendre. Donc on a dit que les gens du livre, que ce soit les chrétiens où les juifs se le disputaient. Chacun disait, Ibrahim nous appartient. Le Coran, il est descendu. Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Ibrahim alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Parce que Ibrahim, il est bien avant Moussa et donc bien avant Issa. Donc il n'a rien à voir avec la Torah et l'Évangile. Rien à voir avec ses révélations. Ne raisonnez-vous donc pas Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance, mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas de connaissance? Or Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah et il n'était point du nombre des associateurs. Donc Ibrahim alayhi salam, on a l'information dans le Coran que c'était quelqu'un qui était soumis à Allah et qui pratiquait le monothéisme dans toute sa pureté. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir sur Ibrahim. Cependant, je reviens au profond respect que lui vouent toutes les communautés religieuses. Donc Ibrahim, généralement, on lui accorde le titre de patriarche. Le patriarche, ça désigne un vieux sage vénéré et très respecté. Donc le mot patriarche, il veut dire ça, un chef respecté, un chef d'une grande communauté ou d'une grande famille très respecté. C'est ça le mot de patriarche. Le Coran est venu confirmer cette appellation à travers deux versets. Inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim était à lui seul une communauté. Dans un autre verset beaucoup plus signifiant, il lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Baqarah, « وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ » Il a dit « لِلنَّاسِ » pas seulement pour les musulmans, « لِلنَّاسِ » C'est-à-dire ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Ibrahim, « Je vais t'instituer en modèle pour les hommes avec un grand H, pas pour les musulmans, pas pour les chrétiens, pas seulement pour les juifs, pour les hommes. » Ibrahim était respecté de toutes les communautés parce qu'il a ce statut particulier de imam avec vraiment un grand I. Donc ça c'était pour Ibrahim alayhi salam. Donc c'est lui à qui Allah subhanahu wa ta'ala ordonna de construire la Kaaba. Donc la Kaaba qu'on estime qu'elle a été détruite au moment du déluge. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de la reconstruire. Donc pour la reconstruction de la Kaaba, il y avait l'aide de son fils Ismaïl. Pendant qu'il construisait la Kaaba, quand elle commençait à atteindre une certaine hauteur, Ismaïl il est venu, il a pris une pierre et il l'a mis en dessous pour que son père monte sur la pierre. C'est là que le miracle se produisit, ses pieds s'enfoncèrent dans la pierre. Et ce miracle il est resté jusqu'à nos jours. On le trouve même dans l'enceinte sacrée de la Mecque qu'on appelle Maqam Ibrahim, la station d'Ibrahim dans laquelle vous pouvez voir encore les empreintes des pieds d'Ibrahim alayhi salam. Donc Ibrahim, donc là on va se rapprocher du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que pendant la construction de la Kaaba, Ibrahim et son fils faisaient des invocations. On va reprendre le passage dans le Coran qui concerne ce moment. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Va traduire ce passage là. Donc pendant qu'il était en train de construire la Kaaba, il faisait des invocations. Qu'est-ce qu'il disait? Et lorsqu'Ibrahim éleva les assises de l'édifice ainsi qu'Ismaïl, voici ce qu'il disait. « Seigneur, accepte de nous. Tu es celui qui entend le savant. Seigneur, fais de nous des croyants, de croyants soumis à toi, ainsi que parmi notre descendance, une communauté qui s'en remet à toi. Et indique-nous les rites de notre pèlerinage et fais-nous rémission. Tu es celui qui accueille les repentants, le miséricordieux. » Donc ça, c'était les invocations qu'il faisait. L'invocation qui nous intéresse, elle se trouve juste après. Qu'est-ce qu'il dit ? رَبَّنَا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait coutume de dire, lorsqu'on l'interrogeait de ses débuts, il disait, je suis l'accomplissement du souhait de mon père Ibrahim. Donc je suis l'accomplissement du souhait de mon père Ibrahim et je suis l'annonce de mon frère Isa alayhi salam. Donc pour ce qui est de l'accomplissement du vœu de son père Ibrahim, il a fait cette dua, il a dit, Seigneur, envoie parmi eux, pendant qu'il est en train de construire la Kaaba, Seigneur, envoie parmi eux un prophète issu d'eux-mêmes qui leur récite tes versets, leur enseigne le livre et la sagesse et les purifie. Tu es le Tout-Puissant, le Sage, le Décideur. Maintenant, une question qui n'est pas dedans. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé Ibrahim ou pas? Naam, on vient de le dire. Et on en trouve des traces dans le Coran. On en trouve des traces dans le Coran. Quel verset? Surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Donc dans ce verset témoigne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé le vœu du prophète Ibrahim alayhi salam. Allah dit: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Allah a fait preuve de bonté envers les croyants. إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ, lorsqu'il suscita parmi eux un prophète issu d'eux, مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, qu'il leur récite ses versets, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait pas de lui-même. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Tout ce qu'il disait, ça venait d'Allah subhanahu wa ta'ala. يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ, et les purifie. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, il leur enseigne le livre. وَالْحِكْمَةَ, et la sagesse. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, même s'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'accomplissement du vœu de son père Ibrahim alayhi salam et de son frère Isa. C'est-à-dire Isa, qu'est-ce qu'il a dit dans sourate Saf? وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. Donc Isa, qu'est-ce qu'il a dit? يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, ô fils d'Israël, إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, je suis un envoyé à vous, مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ, confirmant ce qui m'a devancé en matière de révélation dans la Torah, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad, et vous annonçant la venue d'un prophète qui s'appelle Ahmed, c'est-à-dire le digne de louange. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'accomplissement du vœu d'Ibrahim et la bonne nouvelle annoncée par son frère Isa alayhi salam. Donc j'avais dit quel est l'ancêtre commun des Arabes de la péninsule arabique. Donc les Arabes sont issus de Ismaïl. Donc Ibrahim, il a eu deux enfants, Ismaïl, qui a eu lui aussi 12 enfants et qui furent à l'origine du peuplement de la péninsule arabique. Ishaq, il a eu un enfant qui s'appelle Yaqub. Soit dit en passant, le deuxième nom de Yaqub qu'on trouve également dans le Coran, il s'appelle Israël. Israël, c'est le deuxième nom de Yaqub. Illa ma harrama Israël ala nafsi. Donc Israël, c'est le deuxième nom de Yaqub. Yaqub, il a eu combien d'enfants? Il en a eu 12. Ces 12 enfants, ils ont fondé les 12 tribus d'Israël. Et donc les juifs sont tous les fils Banu Israël. Quand on entend Banu Israël, ce sont les fils d'Israël, dans le sens les descendants de Yaqub. Tayyib. Pour ce qui est de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait de ses ascendants. Il disait: parmi les descendants d'Ismaïl, Dieu choisit Kinana. Puis des descendants de Kinana, il a choisi Quraysh. Puis des descendants de Quraysh, il a choisi les Banu Hashim. Puis parmi les Banu Hashim, il me choisit. Et ce hadith, vous le trouverez dans le Sahih de Muslim. Tayyib, on passe à la question suivante. La question 6. Quels étaient les deux grands empires qui se disputaient le territoire? Donc les deux grands empires qui se disputaient le territoire.
Les
deux grands empires, les Romains, plus précisément les Byzantins. Les Byzantins qu'on appelait les Roms, les Romains. Les Byzantins, en fait, ce sont des Romains, mais ce sont les Romains de la partie orientale et pas de la partie occidentale. C'est-à-dire ce sont les Romains d'Orient. Donc il y avait effectivement les Romains d'Orient et qu'on appelait les Roms et les Forces, c'est-à-dire les Perses. En fait, si on voudrait donner la configuration géographique de l'époque et les tendances un peu politiques de l'époque, on avait les Arabes de la péninsule arabique, au nord, deux grandes puissances, les Roms et les Forces, les Byzantins et les Perses. En arrière-plan, c'est-à-dire après ces deux puissances, il y avait encore deux autres peuples qui dominaient, les Hindous et les Grecs. Les Hindous et les Grecs. Donc les Forces et les Roms étaient effectivement les deux grandes puissances qui se battaient et se disputaient le territoire à l'époque. On passe à la question numéro 7. Quelles sont les deux tribus arabes au nord de la péninsule arabique qui empêchaient la montée des Arabes et pour qui travaillait chacune d'elles? Donc il y avait deux tribus arabes dans la péninsule arabique qui étaient au service de ces deux grandes puissances. Qui a réussi à trouver les réponses à cette question?
Yémen.
Non. Monsieur Yémen. Donc les deux. Là. Donc les deux grandes, les deux tribus qui étaient à la solde de l'Empire romain et de l'Empire perse, les deux tribus qui étaient au service de ces deux grandes puissances, il y avait ce qu'on appelait le Rassassina, c'est-à-dire les Ghassanides, et l'Akhmiyoun, les Lakhmides. Donc les Lakhmides, ils étaient au service de l'Empire perse. Les Lakhmides, ils étaient au service de l'Empire perse. Et le Rassassina, les Ghassanides, ils étaient au service de l'Empire byzantin. C'était quoi leur travail? Parce que c'était des espèces de mercenaires. C'était d'empêcher d'une part, pour les Ghassanides, que les Arabes, donc toutes les deux empêchaient les Arabes de monter. Elles empêchaient les Arabes de pénétrer soit dans l'Empire romain, l'Empire byzantin, ou l'Empire perse. Simplement, ces deux tribus, comme elles étaient chacune au service d'une grande puissance, elles étaient rivales. C'était des tribus rivales. C'est-à-dire que non seulement, par exemple, le Rassassina, les Ghassanides, ils se battaient contre les Arabes pour empêcher leur entrée dans l'Empire romain, mais ils se battaient également contre leurs voisins, les Lakhmides, pour les empêcher de rentrer également dans l'Empire. Et c'est la même chose pour les Lakhmides. Ils se battaient contre les Arabes et ils se battaient contre le Rassassina. Donc les deux tribus arabes, je le répète, c'est le Rassassina et l'Akhmiyoun qui étaient au service de l'Empire byzantin, Rome et l'Empire perse, le Fors. Huitième question. Pourquoi la Kaaba se trouve-t-elle au fin fond d'un endroit désertique? Pourquoi la Kaaba se trouve-t-elle au fin fond d'un endroit désertique?
Le cœur de la terre.
Naam?
Le cœur de la terre.
Naam, sahih. Le réponse sahih. Vas-y.
Se trouve au centre du monde.
Naam.
Le
nombre d'or. C'est ce que le cheikh vient de dire, le hajj vient de dire. Donc elle se trouve au centre du monde, mais il y a une sagesse divine qui fait que la Kaaba se trouve dans un endroit désertique. Parce qu'on a dit qu'il y a deux grandes puissances. Maintenant vous allez me poser la question, pourquoi ces deux grandes puissances ne sont jamais parties dans la péninsule arabique? Tout simplement parce qu'il ne se passait rien dans la péninsule arabique. C'était un endroit pauvre, désertique. Il n'y avait que des nomades qui voyageaient d'oasis en oasis à la recherche d'eau et de fourrage pour leur bétail. Mais à part ça, il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. Il n'y avait rien qui allait pousser une grande puissance à aller faire un tour dans la péninsule arabique. Si ce n'est aller épuiser leurs soldats et leur armée pour rien. Donc ils ne sont jamais partis dans cet endroit-là. Tout ce qu'ils voulaient, c'était que les Arabes ne viennent pas les embêter. C'est pour ça qu'on a dit qu'ils ont missionné les Banu Lakhm et le Rassassina. Donc il y a une hikmah, il y a une sagesse à tout ça. Pour préserver la Kaaba et le lieu sacré, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prévu des choses qui allaient se passer dans cet endroit-là. Et donc pour le préserver de toute invasion, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mis dans un lieu aride. Ibrahim, il me semble qu'il le dit dans sourate An-Nahl. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar' 'inda baytika al-muharram. Ibrahim, il le dit. Il a dit, Ya Allah, j'ai installé ma descendance dans un endroit aride, Ghayri dhi zar'in, où il n'y a aucune agriculture, on ne peut rien faire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, la sagesse qui découle de ça, c'est pour préserver ce lieu saint, pour ne pas qu'il soit envahi par les peuples idolâtres, parce que c'était des peuples idolâtres les Romains, que ce soit les Romains, les Perses, c'était des peuples idolâtres, comme on va le voir dans les questions suivantes. De même que les Grecs, je suppose que vous avez tous étudié l'Antiquité, les Grecs avaient un certain nombre de divinités, donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour préserver cette terre, il l'a mis dans un lieu aride, il l'a mis dans un lieu aride, de sorte qu'elle ne soit perturbée par aucune des puissances avoisinantes. Taïeb, on passe à la question suivante. Et on en a parlé tout à l'heure. Si vous avez été attentif, normalement, vous avez la réponse. Quel est le prophète qui précéda Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et combien d'années les séparaient? Sallallahu alayhi wa sallam. Isa alayhi salam, tayyib. Ahsan. Effectivement, jawab sahih. Donc, le prophète qui a précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète Isa. On estime, le frère il a dit 571, on peut trouver d'autres versions qui parlent de 572 ans. On va arrondir à 570 ans. Donc, entre le prophète Isa alayhi salam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est écoulé 570 ans. Mais attention, et pour apprécier, parce que pour apprécier la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour apprécier sa mission, il faut garder à l'esprit que durant ces 570 ans, Allah subhanahu wa ta'ala n'a envoyé aucun prophète. C'est-à-dire que le monde était plongé dans l'égarement le plus total. Comme on a dit, les Romains étaient empêtrés dans leur idolâtrie. Les Forces, les Perses étaient des adorateurs du feu parce que pour eux, le feu, il symbolisait leur divinité suprême. Les Grecs, pareil, ils étaient empêtrés dans leur idolâtrie. Donc le monde dans son ensemble, il était dans l'égarement le plus total. Par exemple, les Arabes aussi étaient empêtrés dans leur idolâtrie. Ça, on le verra dans la question suivante. Je ne vais pas anticiper. Pour pas donner les réponses. Justement, c'est la question suivante. Comment s'appelle le premier arabe à avoir introduit les idoles dans la péninsule arabique et cité 5 divinités qui étaient adorées et 3 mauvaises coutumes? Donc il y a 3 choses dans cette question. Donc on a parlé d'idolâtrie pour les Romains. L'histoire de l'Empire romain, on la connaît. L'histoire de l'Empire grec, on la connaît. L'histoire des Perses, on la connaît. Maintenant, quel est l'arabe, le premier arabe à avoir introduit le polythéisme? Sachant que les arabes de la péninsule arabique, les descendants d'Ismaïl, étaient restés pendant un certain temps dans la croyance du prophète Ibrahim alayhi salam. C'est-à-dire pendant un certain temps, ils n'ont pas dévié. Mais il y a un arabe dont on cite le nom et qui revient régulièrement dans les écrits des historiens. C'est lui qui est à l'origine de l'introduction des idoles dans la péninsule arabique.
Il s'appelle Amr ibn Luhay.
Ibn
Luhay.
Amr ibn Luhay. Donc Amr ibn Luhay, effectivement, c'est celui qui a introduit les différentes divinités dans la péninsule arabique. Deuxième élément de la question.
Il y a les cinq divinités qui étaient...
Attends, tu peux répéter la première?
Hubel,
Let et L'Uzza. Là, il y en a 3, j'en ai demandé combien?
5,
il en reste 2. Tu t'es arrêté à 3. Donc, il s'est arrêté à 3 divinités. Tout simplement. Donc pour les 3, il a bon. Il y a les 3 divinités qu'il a citées, Hubel, Let, L'Uzza. On peut rajouter une autre qui est aussi citée avec L'Uzza et Let, c'est Manat. Afaraitumul Let wal Uzza wa Manat al-thalithata al-ukhra. طيب, maintenant comment est-ce qu'il a fait pour introduire ces divinités? Après on va citer le reste. comment il a fait pour introduire ses divinités dans la péninsule. Il a fait un voyage au Yémen. Il a fait un voyage au Yémen. Et durant ce voyage, il a vu des gens en train de se prosterner devant des statues. Il leur dit, ben, vous faites quoi? Parce que lui, il ne connaissait pas ça. Il était encore sous la religion d'Ibrahim. Ils lui ont dit, ben, écoute, on adore ces statues. Comme ça, quand on a des problèmes, elles résolvent nos problèmes. Et quand on manque de pluie, elles nous donnent de la pluie. Il a dit, ah, c'est bien. Ben, je vais en prendre une. Il a pris qui? Il a pris Hubel. Et il l'a installé où? Devant la Kaaba. Et petit à petit, les gens ont commencé à créer de nouvelles divinités. Donc maintenant, c'est arrêté à trois divinités. On avait rajouté Manat. Il y en a d'autres, tout simplement, à cette époque-là, puisqu'on commençait à créer des divinités, eh bien, on s'est dit, on va ramener de nouveau les divinités du temps de Nuh. C'était quoi les divinités du temps de Nuh? Est-ce que quelqu'un les connaît, les divinités du